Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 16 novembre. C'est la rentrée universitaire ici au Cameroun. C'est l'actualité. Mais pour le monde, je veux dire, le monde est encore suspendu à ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Et je veux dire, c'est son après qui interroge sur la question de la démocratie et en particulier sur l'organisation des élections aux États-Unis. Alors vraiment, de tous les commentaires qu'on fait, c'est certainement celui qui va nous intéresser le plus ici, à la suite de ce qu'on a dit déjà. Bon, une fois qu'on a dit que le président, enfin, qu'il y a eu des fraudes, on n'a pas tout dit parce que c'est là plutôt que la réflexion commence. Comment se fait-il que dans un pays comme les États-Unis, on a une fraude pareille? Alors moi, c'est vrai, il y a eu des analyses intéressantes, surtout par rapport au déroulement de la campagne. On a bien vu que M. Joe Biden était très favorisé par les médias. D'ailleurs, c'est le président des médias pour le moment, parce que ni la Constitution, ni la Cour suprême, ni le collège électoral ne se sont prononcés. Et quand j'ai dit ni la Constitution, en fait, la Constitution ne se prononce pas, mais disons que la Constitution est un peu en mal et est prise au dépourvu pour ce que nous allons dire après. Donc, ni la Constitution ne permet de dire aujourd'hui que M. Biden est président, évidemment. Les médias parlent partout, vous savez, la fonction tam-tam des médias, et en disant Joe Biden, il est élu, Monsieur Trump fait des, conteste sans preuve, sans base, peut-être pas juridique, mais enfin, il ne peut pas prouver ce qu'il dit, et pourtant si, il peut prouver ce qu'il dit, parce qu'il y a eu effectivement des irrégularités que la presse ne veut ni reconnaître ni accepter parce qu'elle a décidé. Alors c'est curieux, le premier enseignement de cette élection, c'est que c'est la presse qui est devenue le pouvoir. Elle est même allée jusqu'à sanctionner le discours du président de la République, M. Trump. Donc c'est la presse maintenant qui a le pouvoir et le pouvoir politique doit se plier à la presse. Donc déjà au niveau de la Constitution, il y a une égratignure terrible et au niveau de la démocratie, c'est un forfait. C'est un forfait. Et ce pouvoir que les médias ont arraché comme ça de force par leur redondance, vous savez, tous ils sont d'accord, la pensée unique, vous voyez où on en arrive, hein. Avec la pensée unique, on arrive à une dictature de la pensée unique, carrément, une sorte de dictature qui a fait qu'en aucun moment on a posé à M. Joe Biden des questions embarrassantes, surtout pas les journaux qui ont voulu sortir des enquêtes très compromettantes sur M. Joe Biden, sur lesquelles il fallait vraiment s'expliquer, ont été censurés. C'est pas seulement les médias ils marchent maintenant avec la corporation technologique, on appelle ça, on va plus dire les GAFA, là, ça va au-delà, qui viennent soutenir le pouvoir médiatique via les réseaux sociaux, mais ça fait un collectif, ça fait un pack. Et ce pack, il s'est imposé de lui-même par une force qui lui vient de sa technologie et qui ne résulte pas du droit. On s'impose aujourd'hui, c'est ça. La loi et le droit aujourd'hui, c'est la force. C'est le plus fort qui commande et les médias sont très bien placés pour cela, pour jouer les plus forts parce qu'on n'entend qu'il n'y a plus de parole pour personne d'autre. Dieu merci. Il y a quand même parmi ces gens des médias parmi ces hommes politiques, des gens qui peuvent s'opposer et dire des choses, et puis surtout parmi au sein du peuple. On a vu le peuple américain sortir pour soutenir leur président et se manifester clairement. Donc, Monsieur Biden, président des médias et de la plateforme technologique, et Monsieur Trump, président du peuple. Comment on fait cela? Comment on résout cela? Bah, voilà, c'est la loi qui va résoudre cela, parce que on est quand même dans un état de droit. Mais pour dire quand même que cette fois-ci, l'état de droit n'a pas fonctionné, justement, aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai regardé l'organisation des élections, parce qu'une fois qu'on a critiqué, critiqué, on peut critiquer, oui. Bon. Après, on regarde les élections. Comment elles étaient organisées? C'est l'organisation qui a été chaotique, chaotique ou plutôt défaillante, défaillante dans ce sens que vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi on va voter à la poste. Voyez, on va jeter son courrier comme si on jetait un courrier ordinaire. Mais non, pas même seulement à la poste, je dis dans une borne postale. On allait, on jetait son bulletin de vote. Mais non, pareil, ces bulletins de vote qui arrivaient dans les bureaux de vote n'ont jamais été escortés. Ils arrivaient comme cela, on les transportait de façon alors vraiment comme comme du rien, comment je veux dire, du menu fretin. On allait les déposer. Ils étaient déposés, balancés quelque part dans un coin. Là aussi, la réception, laxiste. Je veux dire, le jour du vote même, on n'a pas vu la police, on n'a pas vu les huissiers. C'est que les États-Unis, quand même, c'est un continent, c'est pas la France, c'est très grand. Il faut qu'il y ait pas seulement des observateurs, vous voyez un peu, qui sont là comme les assesseurs ou les scrutateurs. Non, il fallait plus quand même pour cette campagne ici. Et il fallait, au-delà de tout cela, un protocole qui soit homogène et applicable à tous les États. Qu'est-ce qu'on a vu? La Pennsylvanie, le secrétaire d'État, enfin c'est une femme, la secrétaire d'État, elle a décidé que on pouvait prolonger, recevoir les bulletins de vote jusque même 10 jours après, pourvu que le cachet de la poste fasse foi. Bah alors, quels sont déjà les délais postaux? Et vous savez, dans les conditions où je vous dis, on peut ouvrir, allons-y pas à pas, à la poste déjà, pour éviter les fraudes. Il fallait un bureau spécial, présence d'huissier, présence d'un policier où vous venez déposer votre bulletin de vote, qu'on le reçoit, et vous signez contre-signature et vous présentez la photocopie de votre bulletin de vote sur lequel on mettra un cachet. Ça, c'était déjà élémentaire à faire. Et dans le transport des bulletins de vote qui devaient se faire tous les soirs afin d'éviter qu'on ouvre les bulletins de vote et qu'on puisse les remplacer par d'autres, ce qui fait qu'à la fin, on a trouvé des bulletins de vote qui n'ont pas de signature authentique ou qui n'ont pas d'identité, d'identification sérieuse. Et le déplacement des bulletins de vote de la poste au bureau de vote devait se faire tous les soirs, comme dans les fourgons. Vous voyez, quand le fourgon il va bien blindé, on allait déposer. Et là-bas aussi, au niveau de la réception de ces bulletins de vote, il fallait une autre sécurité et un local avec des scellés où on déposait ces bulletins de vote pour qu'ils ne soient accessibles à personne. Et tout ce protocole n'a jamais eu lieu. Et on se pose la question de savoir pourquoi, sans compter les élections après. Si chaque État applique son protocole, ça va pas du tout. La Géorgie est revenue quand même sur le fait, a dit qu'elle va recompter sur une base simple. Tous les bulletins de vote qui n'étaient pas là, enfin, ce qui a été expédié par la poste à 19 h, lorsqu'on a fermé les bureaux de vote, ne sont pas pris en compte. Donc, déjà, on va recompter sur cette base. Tous ces bulletins, alors, on les annule. Il se trouve que jusque-là, c'est pas la... il n'y a pas de réponse parce qu'entre-temps, on a pu frauder avant. On a pu changer les bulletins de vote. On a pu les manipuler. On a pu en rajouter, comme on a vu qu'il y a dans certains bureaux de vote plus d'électeurs que les inscrits. Il est vrai qu'on incrimine la non-mise à jour des fichiers, mais tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas eu de protocole. Les fichiers devaient être mis à jour avant, un mois avant le vote, et certifiés. devant toujours huissiers et autorités ad hoc, si on veut. Donc, toutes ces failles font que, à la fin, M. Trump, il a raison de faire donc toutes ces objections-là qu'il fait. Mais en même temps, au final, bien sûr, en Pennsylvanie, c'est excessif, parce que si vous pouvez recevoir les bulletins 10 jours après, le 3, et que vous fassiez valoir qu'ils avaient été postés avant le 3, ça c'est quand même fort de café, personne ne peut accepter cela. Donc la fraude était facile, voilà, c'était facile de frauder à toutes les étapes, y compris d'ailleurs le jour du vote. On a vu des observateurs tenus à distance par une plaque qui isolante du bureau, voilà. On a entendu qu'il y a eu des assesseurs qui sont allés en pause, et quand ils sont revenus, ils ont trouvé que les autres étaient revenus, ils avaient fait ce qu'ils avaient fait. Et on incrimine aussi le logiciel qui aurait une faille où on peut d'un clic faire basculer les voix de Biden enfin de Trump à Biden, parce que c'est ça qui s'est passé surtout. Et dans ce logiciel aussi, on n'a pas vérifié l'ancien, les machines à voter seraient anciennes. Donc il y a toutes ces failles qui relèvent, je veux dire, ça va au-delà de la responsabilité des secrétaires d'État personnels. C'est l'organisation qui n'a pas marché, et l'harmonisation des conditions du vote et de son déroulement, ça n'a pas marché. Alors, à qui va être vraiment la faute? Bien sûr, il y aura des fautes personnelles, je sais pas, mais ça va être très difficile à démontrer, cette faute-là, parce que c'est... Je ne sais pas où ça a foiré, il y a quelque chose qui a foiré dans l'organisation, et les responsabilités vont au-delà des États à qui on n'a pas défini de protocole ferme qui le définit, ce protocole. Enfin, moi, je ne sais pas, il y a certainement quelqu'un qui va être désigné responsable, mais ça va être aussi être difficile, parce que jusqu'à présent, il se fiait à la tradition, et il se fiait à une... Vous savez, l'Amérique, elle est très... On dit dream, hein, le rêve américain, elle est très rêveuse. Il se fiait à une forme de... Ils ont toujours dit qu'on jure sur serment, hein. Les gens sont sincères, ils sont pas méchants, ils jurent sur serment, donc tout est bon, tout est bien. Non, 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 ça marche plus comme ça. Au contraire, plus on jure, plus on va à l'église, plus on est faux. Plus qu'on crie, on est catholique et tout, plus on est pour l'avortement, pour la pédophilie, pour la... Je vois tout ce que je veux dire. On a pris l'église là, en plein main dans le sac, on va parler, et pas seulement l'église, pour tous ceux qui gouvernent l'État, l'État américain, et notamment de gauche, qui sont très catholiques, vous savez, très religieux, mais qui font exactement le contraire des principes et des préceptes bibliques. Oh, bon, alors, qui aura le dernier mot dans cette histoire? Trump. Il a la main, parce que lui, dès le début, s'était opposé à ce vote en disant très bien, attention, attention, ça va aboutir à un chaos insurmontable, et ça n'a pas loupé, parce que on revient donc à ce qu'on disait au début. Monsieur Joe Biden, lui, il n'a pas fait campagne. Il était carrément dans ses appartements en particulier, et parce qu'il savait que les médias feront campagne pour lui. Donc il y a quand même déjà là une grosse présomption, pas de culpabilité, mais quand même, il y a quelque chose qui interroge sur cette association-là, et cette connivence plutôt, qui fait que pendant les élections, enfin pendant la campagne, on a changé le protocole. Il devait avoir 3 débats, non plus, il n'y a plus. Finalement, il y en a 2, et puis le deuxième devait concerner le troisième, c'était les affaires étrangères. Non, c'était trop compromettant pour Joe Biden, vous comprenez. Donc non, 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 on le fait pas. Il y a toute cette suspicion. Je veux dire, c'est même plus des suspicions. C'est fait. Qui démontre très bien qu'il y a eu une connivence. Et puis après, vous savez, hein, les gens, ils profitent toujours des failles de la loi pour la contourner, pour la pervertir. Que Joe Biden, enfin que l'équipe démocrate, je ne vais pas dire Monsieur Joe Biden, parce qu'il n'est pas le seul à avoir fait cela, ait contourné la loi et exploité toutes les failles. Oui, ça, c'est sans aucun doute. sans aucun doute, mais que il est fait parce que le protocole était lâche, il n'y en avait pas et chaque État pouvait faire ce qu'il voulait. Oui aussi, donc il peut se défausser sur cette organisation, voilà, qui, je veux dire, on ne peut pas faire des choses sans une loi cadre, sans les encadrer par des principes. Et le vote par voie postale doit être encadré. Il n'a pas été ici. L'erreur fatale et fondamentale de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et effectivement, donc, le collège électoral va voter, on va recompter, on est en train de recompter sur cette base-là. La décision finale, ça sera certainement à la Cour suprême. Et là, on va entrer dans un code de procédure terrible. Amis de Radio Silence, c'était le point que nous pouvions faire ici à Radio Silence pour vous. Parce que maintenant, on va entrer dans le droit pur et dur. Vous avez écouté Flash sur le monde d'Élise Mbok. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.